Qu'on en ait honte ou qu'on l'assume fièrement, bienvenue dans Fantasme, le podcast qui décrypte et décrispe vos sexualités. Moi, c'est Fleur Chérie. Passionnée par la sexualité, j'en ai fait mon métier depuis 10 ans en tant que journaliste, chroniqueuse et entrepreneuse dans le monde formidable du sexe. J'ai même monté une boîte de réalisation de fantasmes et depuis, tout le monde me raconte ses secrets les plus fous, les plus intimes. Au fil des discussions, je me suis rendu compte qu'on a tous et toutes des envies plus ou moins précises en tête. Une routine, un motif, un petit kink, un fantasme qui nous fait vraiment décoller. Et dont on a du mal à se décoller. Parfois, on le découvre dès l'enfance, on est comme ça, on se sent différent des autres, troublé dans notre intimité. Parfois, on a connu une expérience dans notre vie d'adulte si exceptionnelle qu'on a envie de la revivre. Parfois, on a vécu des frustrations ou des complexes qui nous poussent à les extérioriser dans notre sexualité. Et parfois, on ne sait pas pourquoi c'est là, mais c'est là. Aujourd'hui, je reçois Eva qui va nous parler du fantasme de soumission.
Je m'appelle Eva Delambre, je suis autrice aux éditions Tabou d'une dizaine de romans sur le BDSM et je vais vous raconter mon fantasme.
Eva est une autrice sur le sujet de la soumission qui est une des plus influentes en France. Preuve que son fantasme est loin d'être anodin, des centaines de groupies, souvent des femmes, commandent chacun de ses posts sur les réseaux sociaux et dévorent ses romans. Et cet engouement a même une portée nationale. Selon un sondage IFOP de 2015, un quart des Françaises allaient voir le film 50 nuances de grey à sa sortie. Ces adeptes ne sont pas toutes des pratiquantes. Certaines se contentent des douces rêveries que cela inspire, des simples curieuses qui apprécient le contexte, le scénario et les pratiques et qui pourtant ne sont jamais passées à l'acte. Il faut dire que certains fantasmes sont considérés comme dangereux, alors on préfère s'exciter avec, dans la sécurité de sa chambre et de son lit, derrière son écran sans jamais succomber à ses désirs. C'était le cas d'Eva, à ses débuts.
Alors la première fois que j'ai commencé à écrire, c'était pour mêler justement deux fantasmes, deux envies. C'était à la fois l'écriture, parce que j'ai toujours eu envie d'écrire un roman, mais j'avais pas du tout d'idée sur le sujet. Enfin, du moins, c'était pas ce sujet auquel j'avais pensé. Et en fait, j'étais dans une période où j'avais une libido qui était exacerbée, avec beaucoup de frustration. Et donc, j'ai eu envie d'abord de lire des choses qui m'excitaient, qui me parlaient, mais je trouvais rien qui me convenait, en fait. C'était trop mielleux, trop câlin. Et donc, et par hasard, je suis tombée sur un texte qui avait un peu plus de... qui me parlait davantage, qui était plus excitant. Et je me suis dit, mais pourquoi pas essayer. Et en fait, j'ai découvert que j'étais complètement tétanisée à oser écrire des choses un peu crues. Et puis, je me suis dit, bah, allez, personne ne le saura. Donc, je me suis lancée. J'ai publié ça sur un forum à l'époque pour oser le faire simplement. Et j'ai eu des retours qui étaient positifs. Et donc, je me suis lancée. J'ai continué l'histoire qui n'était pas du tout prévue pour être poursuivie. Donc, j'avais déjà des personnages que j'avais posés et une situation, un contexte. Donc j'ai fait avec, j'ai continué et je me suis rendu compte que le texte devenait quand même plus hard et jamais assez. Ça allait jamais assez loin. Et donc j'ai rajouté des personnages, j'ai rajouté des scènes et tous les jours je publiais sur un blog.
De l'écriture à la pratique, du fantasme à la réalité, il n'y a parfois qu'un pas. Eva tombe un jour sous le charme d'un maître BDSM dont elle a l'habitude de lire les textes sur son blog. Son style la surprend, elle se demande si elle sera à la hauteur car c'est surtout d'admiration dont il s'agit dans le BDSM. Il faut d'abord trouver quelque chose de respectable ou de fascinant chez le maître ou la domina pour se laisser aller et savourer pleinement la pratique.
Lorsque j'ai lu les premiers textes de mon maître, enfin de celui qui est devenu mon maître, à l'époque c'était loin d'être le cas. Pour moi, il n'y avait qu'un mot qui définissait tout ça, c'était inaccessible. Pour moi, j'étais pas du tout... je ne pouvais pas lui plaire, je ne pouvais pas l'intéresser, et j'étais absolument pas à la hauteur de ce qu'il décrivait, en fait, quand je voyais les récits de séances, je me disais, bon, ça me fait de l'effet, évidemment, mais moi, je le ferai pas. De toute façon, moi, je reste dans l'écrit, je ne passerai pas à l'acte, je ne peux pas, et c'est très bien comme ça. Évidemment, je lui dis qu'en effet, moi, je n'avais jamais rien vécu, et puis que d'entrée de jeu, c'était pas possible, puis ça n'avait aucun intérêt de mentir, de toute façon. Et puis voilà, les échanges ont eu lieu. Et puis évidemment, j'ai eu envie d'aller plus loin, en fait. Après de nombreuses tergiversations, finalement, on s'est retrouvés dans un rendez-vous, un hôtel, une mise en situation immédiate et une séance qui démarre aussitôt, en fait. En fait, ce que je veux, ça ne rentrait pas vraiment en compte. J'étais déjà soumise, donc c'est lui qui a posé les règles du jeu. Peut-être que si j'avais dit que je voulais qu'il en soit autrement, rien que de dire cette phrase me perturbe, parce qu'en fait c'est pas à moi de dire ce que je veux, en fait ça marche pas comme ça. Donc voilà, j'ai suivi ses règles, j'ai suivi ses consignes, j'ai respecté la façon dont il voulait que ça se passe. Bien sûr, quand on s'est vu, il m'a dit que j'avais le droit de changer d'avis, évidemment. Quand même, on s'était pas rencontrés comme ça. Et bien sûr que non, je suis restée. Je décris précisément cette première séance dans un de mes romans, Évidence. Et donc, c'est une attente dans une chambre d'hôtel, dont la porte est laissée ouverte. Et lui qui arrive et qui prend possession de moi, finalement, en fait. En me disant justement que bon, si je souhaite partir, je peux, mais c'est tout de suite. Et sinon, il disposera de moi durant les prochaines heures, comme il le voudra.
Qu'est-ce que le BDSM ? C'est un mot fourre-tout très large. Les initiales de BDD-SSM, c'est-à-dire bondage, discipline, domination, soumission, sadomasochisme. Avec toutes ces lettres, on comprend bien que tout le monde ne le vit pas nécessairement comme Eva. Cela peut passer par la domestication de la douleur dans les cas les plus extrêmes, dans le lâcher-prise que l'on retrouve dans les cordes ou dans l'envie de subir une attention assidue, une vigilance exacerbée. C'est dans ce dernier univers, l'appartenance, la discipline, qu'Eva s'est pleinement épanouie.
C'est vraiment un apprentissage, c'est un cheminement qui part de rien et qui évolue et au fil du temps. C'est un guide, ça reste un apprentissage perpétuel. On est toujours dans l'apprentissage des gestes, dans l'apprentissage des réflexes, dans l'apprentissage de la façon de faire. Il y a toujours des nouvelles choses, il y a toujours à apprendre et il y a toujours à maintenir le niveau aussi. C'est-à-dire que malgré le temps qui passe, faut pas se laisser aller. Faut pas prendre les choses pour acquis. Maintenir le niveau, c'est vraiment rester à sa place, quoi qu'il arrive, même s'il y a des moments autres par moment, même si on a l'impression qu'il y a une complicité, ou même si on a l'impression que, de toute façon, c'est pas grave. Non, le moindre petit détail est grave, et c'est pas parce que ça fait un an, pas parce que ça fait 10 ans, qu'on peut se permettre d'oublier une consigne, on peut se permettre de ne pas respecter pleinement un ordre. Alors, je parle pas de ne pas le respecter volontairement, je parle d'oublier ou de ne pas le faire à temps, ou de ne pas être assez engagé dans ce qu'on fait. Il n'y a pas de laisser-aller possible. Pour moi, en tout cas, ce n'est pas un jeu du tout, et pour lui non plus, ça, j'en suis sûre. Alors peut-être que de l'extérieur, ça peut en donner l'impression, et bon, je le comprends. Après, je pense que les gens qui ont ce genre de relation aussi, pour certains, vivent ça comme un jeu, et pour pimenter leur vie sexuelle. Et je l'entends, c'est très bien. Je pense que tous les moyens possibles, imaginables, pour pimenter une vie sexuelle sont bons à prendre. Mais nous, notre relation et notre façon de la vivre, pour moi, c'est pas un jeu du tout.
Souvent dans la soumission, une des envies sous-jacentes, c'est celle de chercher un cadre, une façon d'être protégée, d'être sécurisée. Et c'est vrai en particulier chez les femmes. Ça s'appelle le fantasme de l'appartenance. À ce moment-là, ce qui fait vraiment du bien, c'est de se sentir à la fois déresponsabilisée et en même temps tiré vers le haut par un protecteur. Et c'est clairement la relation qu'entretient Eva avec son maître qui la suit tous les jours, à chaque instant, avec bien sûr son consentement absolu.
Je lui demande la permission pour tout et n'importe quoi. Comme autant pour venir ici enregistrer un podcast que pour aller boire un verre avec une amie, que pour aller faire du shopping. Voilà, si je dois aller au garage faire réparer ma voiture, je lui en parle. Si je dois aller acheter une nouvelle paire de chaussures, je lui en parle. Je lui demande, il faut qu'elle lui plaise. Parfois, il arrive de ne pas vouloir certaines choses et je l'entends. Après, bon, des fois, je négocie un petit peu, mais ça ne marche pas toujours. Pour des choses futiles, évidemment. Quand ça est vraiment très important, il n'y a pas à négocier. Et puis, de toute façon, je pense aussi qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. Je sais d'avance certaines choses, c'est pas la peine de demander. Et puis d'autres, je sais qu'il n'y a pas de problème, on se connaît. Je dis souvent qu'il y a autant de façons de vivre le BDSM qu'il y a de maîtres et de soumises. Et c'est vrai que moi, j'ai la chance d'être dans une relation qui est vraiment entière, où il n'y a pas un instant où mon maître ne s'intéresse pas à ce que je fais, en fait. C'est vraiment... On a l'impression que la soumise, elle est uniquement dans... Pas il n'y a qu'elle qui donne, mais ce n'est pas le cas, en fait. Mon maître me donne énormément, énormément d'attention. Et ça, bien plus que beaucoup en reçoivent, même dans une bivanie ou autre. Et ça, je pense que c'est un point que les gens n'ont pas forcément à l'esprit. Mais quand je dois dire, moi, à chaque instant ce que je fais, je me soumets. Mais si je ne le dis pas, lui-même voit bien que je ne l'ai pas dit. Et pourquoi ? Parce que justement, il s'intéresse à ce que je fais à chaque instant. Donc, c'est une dépendance. Mais il y a aussi en contrepartie énormément d'attention. Et je pense que peut-être ça faisait partie des choses qui me sont nécessaires, en fait, de me sentir constamment sous emprise.
Dans le fantasme de l'appartenance, certaines pratiques sont assez singulières, voire définitives. C'est le cas du branding que l'on connaît aussi sous le nom de marquage au fer, une cérémonie qui ancre à jamais le ou la soumise en laissant sur une partie de son corps la cicatrice ou le tatouage indélébile de son appartenance. Le marquage au fer est aussi important dans son esthétique que dans sa symbolique. Non seulement cela paraît très impressionnant d'avoir un tison rouge enflammé qui pénètre dans la chair, mais la cicatrisation entraîne aussi toute une série de soins qui rentrent dans ce qu'on appelle l'aftercare, c'est-à-dire le petit moment doux qui suit une pratique assez musclée. Alors, qu'est-ce qu'on se fait tatouer ? Cela peut être un motif ou un mot, en l'occurrence pour Eva, il s'agissait d'initiales, celles de son maître.
Dans mon premier roman, à la fin, j'évoque le branding. Le branding, donc le marquage au fer rouge de la soumise par son maître. C'est une des rares scènes pour laquelle j'ai dû m'informer un petit peu, essayer de trouver un petit peu de la documentation pour pas écrire n'importe quoi. Et voilà, je trouvais que c'était vraiment l'ultime don, une scène vraiment très esthétique. Plus belle qu'un tatouage, finalement, qui reste assez classique. Je trouvais que c'était une belle marque d'appartenance. En plus, bon, il y a le symbole de l'appartenance historique aussi, même si c'est un autre registre. Et donc voilà, c'est quelque chose que j'avais un peu en tête, mais pas du tout pour le vivre. Mais disons, déjà avant même de vivre le BDSM, j'avais déjà évoqué cet acte. Et on en avait parlé à un moment donné. Il m'avait dit que bon, c'était quelque chose qu'il n'avait jamais pratiqué, et parce qu'il n'avait jamais eu l'envie. Et moi, ça me titillait. J'avais décidé d'écrire l'histoire des personnages concernés dans justement le livre Marqué au fer, qui porte bien son nom, parce que c'était justement un de mes fantasmes d'une certaine façon, même si je pense que ça peut faire hurler beaucoup de gens. Mais c'était quelque chose qui me travaillait beaucoup. Et puis bon, on avait parlé plusieurs fois, enfin sur des années en fait, on en a parlé. Et puis voilà, je lui ai dit que moi c'était quelque chose que j'aimerais beaucoup vivre. Et en fait, il a accepté de me marquer. Donc ça a été compliqué. Il a fallu trouver l'endroit, la façon de faire, le matériel, l'endroit et physiquement et géographiquement. On n'est pas faire ça sur un coin de table, dans un endroit pas terrible. Donc il a trouvé une chapelle désacralisée dans le sud de la France. J'ai mis des bougies, j'avais mis la musique. Il avait trouvé l'objet en métal avec son initiale pour le marquage. On avait tout préparé, même s'il y a eu évidemment des aléas de dernière minute parce qu'on n'avait pas vu ça de la même façon. Et Mais ça restait quelque part mon fantasme. Et à un moment donné, il a accepté l'idée que voilà, j'étais capable de le vivre de la façon dont je l'avais imaginé. Et donc, c'est vrai que de ce côté-là, il m'a autorisé la position et le fait de ne pas être attachée comme je le souhaitais. Et ça, c'était beaucoup, parce que ça aurait été compliqué de faire autrement pour moi. Et voilà, donc et au petit matin, au lever du jour, je lui ai fait le don, quelque part, de cette douleur. Parce que bon, après, c'est une marque, c'est une cicatrice qu'on porte à vie, qu'il faut assumer. Et donc, voilà, et j'ai décidé de... ce jour-là, de faire le serment que, quoi qu'il arrive, je n'aurai pas d'autre maître que lui. Donc, voilà, le jour où il me libérera, je ne serai pas en recherche d'un successeur, ça c'est sûr. Et il m'a aussi fait le serment que je serai la seule soumise à porter cette marque au fer rouge. Donc, ça, je n'en demandais pas tant, mais c'était un moment très intense, très, très fort. Et évidemment, ça renforce le lien.
Aujourd'hui, Eva est toujours en couple avec son maître dans une relation BDSM exclusive et redoute le moment où leur histoire sera terminée. Ce sera la fin pour elle de la vie de domination et de soumission. Dans l'histoire d'Eva, le fantasme a clairement passé le cap de la douce rêverie pour être vécu à 100%, au premier degré, sans la notion de jeu, sans se dire qu'on fait semblant. C'est assez singulier dans le monde BDSM où l'on préfère souvent jouer la comédie, le temps d'une nuit, d'une séance, puis passer à autre chose. En particulier chez les hommes soumis qui préfèrent, parfois, la sensation à la relation. Eva et son maître ont fait d'un fantasme une histoire plus que réelle. Et cela peut aussi nous apprendre que tous les types de relations sont possibles quand les attentes sont les mêmes. Il suffit juste de décider ensemble des règles du jeu. Merci d'avoir écouté Fantasme, une production Atelier B. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.